Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle série des clés pour vivre. Aujourd'hui, c'est une femme au parcours bouleversant que je reçois, Jamila Djelloul, ancienne musulmane. Elle a rencontré Jésus de façon inattendue et cette rencontre a radicalement transformé sa vie. Dans ce premier volet d'émission, elle va nous raconter son histoire, ses racines, ses questions, ce cheminement intérieur qui l'a menée, car elle a cherché vers cette lumière et cette rencontre avec Jésus mort et ressuscité. Jamila Djelloul est auteure d'un livre paru aux éditions Artege. Ce livre s'intitule « Musulmane, Jésus m'a libérée ». Bonjour Jamila.
Bonjour Nathalie.
Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et puis de votre éducation dans l'islam ? Merci.
Oui, je suis née en Algérie. Dans une ville qui s'appelle Oran. Et je suis donc issue d'une famille, d'une fratrie de quatre. Je suis l'aînée. J'ai une grande sœur, une demi-sœur et un demi-frère, donc du premier mariage de ma mère. Et nous, en Algérie, donc, on a vécu une très grande pauvreté. Ma mère est très croyante, donc c'était une femme pratiquante et croyante. Mon père, il n'était pas beaucoup, hein. Je ne l'ai pas vu prier souvent. Et moi, j'admirais justement la foi de ma mère. Je l'admirais. Alors, j'ai une petite anecdote. Un jour, il y a eu un tremblement de terre à Oran et on habitait au dernier étage d'un immeuble, un ancien immeuble. Et toute la journée, donc, l'immeuble a bougé. Et nous, ça nous faisait rire parce qu'on était enfants. Alors, donc, on avait l'impression d'être dans un bus tellement que ça tanguait dans tous les côtés. Et je me souviens, le soir, tous les habitants sont venus frapper à la porte. Mon père était en France à ce moment-là. Et ils sont venus nous dire à ma mère, il faudrait que vous descendiez, vous et vos enfants, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des secousses pendant la nuit, ça serait très grave. Et ma mère leur a dit non, je ne descendrai pas, je reste ici avec mes enfants et si on doit mourir, on mourra, mais si Dieu doit préserver notre vie, que ce soit ici ou à l'extérieur, ça sera la même chose. Donc, et ça, ça m'avait vraiment impressionné, cette force, cette foi qu'elle avait, et on est resté. Alors, tout l'immeuble avait été vidé, et ils sont tous allés dormir dehors, passer toute la nuit, quasiment nuit blanche, et nous, eh bien, on a dormi tranquillement, et le lendemain, tout s'est bien passé, et voilà, donc rien ne s'est passé.
Grand témoignage de foi, hein,
oui,
de
tout
votre
à fait.
Maman et auprès
et moi,
de ses
absolument,
enfants.
Absolument, ouais. Absolument, et du coup, ça, c'est vrai que moi, j'admirais sa foi. Et très tôt, comme j'étais... Donc, ma grande sœur, bon, on a quand même un certain écart entre nous. Elle travaillait, donc je n'ai pas eu une relation vraiment de sœur. Donc, c'était plutôt mes trois plus jeunes frères. Hein. Et je me considère un petit peu la grande parce que mon père, puisque ce n'était pas son papa, hein, à ma sœur aînée, donc j'étais l'aînée de mon père. Et très tôt, j'allais à la mosquée pour apprendre le Coran, c'était l'école coranique. Et justement, je venais réciter les sourates à ma mère pour qu'elle, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école, donc elle connaissait qu'une ou deux sourates. Et moi, j'apprenais le Coran, donc les sourates du Coran, et j'allais lui répéter. Et elle apprenait, elle répétait après moi. Donc ça lui faisait apprendre un peu plus. Et ce que j'avais retenu de ce temps, de ces années, de trois ans, eh bien, c'est que seuls les musulmans irait au paradis et que tous les autres vont hériter de l'enfer. Donc, pour moi, l'enfer aussi représentait le mal parce que souvent, ma mère, quand elle nous disait « si tu voles, si tu mens, etc., tu vas en enfer », donc c'était associé au péché. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais venir en France et puis rencontrer ces personnes qui, pour moi, allaient aller en enfer, qui étaient forcément méchantes. Donc, on pratiquait. Donc, c'est vrai que ma mère, je la voyais faire toutes les fêtes. Pendant le ramadan, pendant l'Aïd, hein, les fêtes musulmanes, etc. Elle était toujours là pour faire les gâteaux, pour prier. Enfin, voilà, elle était très investie. Et donc, ça m'avait beaucoup marquée, contrairement à mes frères, qui, eux, bon, c'était un petit peu loin de tout ça. Mais moi, j'ai toujours crains Dieu. J'avais toujours cette attirance, je ne sais pas. Il y avait
Est-ce qu'on peut parler que vous aviez déjà, au fond de vous, dans ce cheminement, ressenti une quête intérieure de chercher Dieu, de chercher quelque part un peu qui il était, ou au fond, chercher la vérité? Qu'est-ce qui vous habitait profondément dans cette enfance que vous décrivez en Algérie?
Nous, c'est plutôt, moi personnellement, et dans notre religion, je veux dire dans l'islam, c'est plutôt la peur d'aller en enfer.
Cette peur vous habitait?
Ah oui, bien sûr.
Enfant et adolescente.
Ah, absolument. Ouais. La peur, parce que si nous péchons, eh bien, on n'a aucune garantie d'être sauvé. Donc, quoi qu'on fasse, on n'est jamais sûr d'un jour d'aller au paradis, malgré qu'on dit, bon, la seule chose, je me souviens qu'on nous disait, c'est il faut surtout faire sa profession de foi. Avant même une personne musulmane qui, avant de mourir, simplement dit qu'il n'y a que Dieu, Allah et son prophète Mohammed, il va au paradis. Donc, mais bon, comme on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir, donc, mais ça, c'est pour ça qu'on le répète souvent, cette profession de foi.
Vous parlez de cette peur de l'enfer, vous étiez terrifiée pensant
à
l'enfer?
Absolument, parce que l'enfer, il est décrit comme un lieu où on va être grillé, c'est-à-dire Dieu va nous mettre dans un feu qui ne s'éteint pas, les peaux vont brûler et elles redeviennent encore des peaux et éternellement, ça va être comme ça. C'est tout le temps en permanence.
Donc, il faut rester musulman pour aller au paradis?
Eh bien, oui, en fait, il faut être musulman, mais en même temps, il faut surtout faire ses pratiques. C'est les pratiques, c'est-à-dire la prière, le ramadan,
donc,
la profession de foi.
Donc, un musulman qui n'est pas pratiquant n'ira pas au paradis, selon la religion musulmane?
Oui, mais sauf si il professe déjà qu'il est la profession de foi, donc de croire qu'en Allah unique Dieu et son prophète Mohammed. Donc s'il le dit, il est, on va dire, il est sauvé, mais on ne sait jamais. Alors c'est un peu en contradiction parce qu'en même temps on dit qu'il y a que les musulmans qui vont aller au paradis, mais en même temps ils n'ont pas vraiment la garantie parce qu'on ne sait pas la balance par la suite, elle va pencher de quel côté, parce qu'il y aura une balance à la fin des temps, quand il y aura le jugement. Eh bien Dieu va mettre les bonnes actions d'un côté, les mauvaises actions de l'autre, et en fonction des bonnes ou mauvaises, eh bien la balance, si elle penche vers le bien, donc ça sera le paradis. Si elle penche vers le mal, eh bien, voilà.
Alors, enfant et adolescente, à cette époque, vous vous interrogez sur cette question, au fond, du bien et du mal. Qu'est-ce qu'était le bien pour vous, à l'époque?
Alors, le bien, c'est voilà, ne pas mentir, on va dire ne pas voler. Surtout, il y a aussi cette dimension de toujours obéir à ses parents. La malédiction alors pèse sur nous de pas obéir à nos parents. Et je me souviens, ma mère, elle disait toujours que Dieu a dit donc dans le Coran que le paradis est sous les pieds de la mère. Ça veut dire que si on n'obéit pas à sa mère, et je crois qu'on est beaucoup comme ça à être sous cette emprise de nos parents, que les parents passent avant tout. Avant nos enfants, avant nos maris, etc. Et beaucoup vivent dans ça. Et le fait de dire qu'il y a Dieu et les parents, et il faut obéir à ses parents. Donc, il y a l'obéissance des parents, ne pas mentir, ne pas voler, et puis le faire toutes ses prières et surtout ne pas chercher à douter de quoi que ce soit. Le doute dans l'islam, ou de croire qu'il y a autre chose que Allah du Coran et que le prophète et Mohammed et son prophète, c'est le doute.
Donc, ne pas est-ce que vous aviez cette liberté de douter donc de cette foi au sein même de votre famille? On reste un peu dans cette enfance et cette adolescence jusqu'à vos 17 ans, jusqu'à un départ aussi de la maison pour être accueilli dans un foyer.
Oui, alors par exemple, moi je sais que vers l'âge de 11-12 ans, je fréquentais une copine d'école, Sylvie, et elle allait au catéchisme. Et donc je savais, elle m'avait expliqué que le catéchisme, c'était pour aller, pour apprendre des choses chrétiennes. Et moi, par curiosité, moi j'ai toujours eu ce côté un petit peu chercher, essayer de mettre un peu mon nez un peu partout, curieuse quoi. Et j'étais allée avec elle pour voir un petit peu, comme c'était ma meilleure amie. Donc je suis un jour allée et mais en même temps au fond de moi-même. Donc c'est vrai que je découvrais le lieu. J'avais été très très bien accueillie et je me souviens toujours cette personne, cette dame qui nous avait accueillis dans le groupe, qui était très gentille, elle est bienveillante, elle avait un sourire angélique et en même temps, donc elle m'a pas jugée, elle m'a pas dit non, vous êtes musulmane, vous n'avez pas votre place ici ni rien. Elle m'a accueillie. Mais quand elle m'a demandé de me présenter, la première chose que je lui ai dit, voilà, je m'appelle Jamila et je suis musulmane, parce que je me disais, mais j'espère qu'elle ne pense pas que je viens ici pour changer ma religion. Donc j'étais déjà, à cet âge-là, déjà prête à répondre de ma foi et de ne pas me laisser un petit peu guider n'importe où. Quoi.
Et vous étiez prête à vous confronter?
Bien sûr. Donc, et c'est vers l'âge de 15 ans où j'avais regardé un film à l'époque en France, je dirais. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui on n'a plus ce genre de film qui à la télé. On avait vu, j'avais assisté au film de Bernadette Soubirous, donc à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Et je me souviens que tout le monde est parti se coucher, ma famille, tous. C'était un soir et je devais avoir autour de 15 ans. Et je suis restée à regarder le film jusqu'à la fin. Et j'étais impressionnée, vraiment j'étais plongée dans ce film et je me disais au fond de moi-même, qu'est-ce que j'aimerais bien être à sa place, à la place de Bernadette. Et je ne comprenais pas pourquoi moi qui étais musulmane avais des pensées aussi bizarres. Enfin je me disais, mais comment ça se fait que je pense ça? Et 20 ans après, je me suis retrouvée voilà, devant la Vierge Marie. Et là, je me suis souvenue de cette parole, bien sûr, je suis devant la Vierge Marie à la place de Bernadette.
Quel parcours étonnant, inattendu. Et puis nous enregistrons, parce que depuis près de 20 ans, tous les ans, vous revenez ici à Lourdes, cette cité mariale, pour rendre grâce, on l'imagine bien, rendre grâce auprès de Marie et puis Sainte Bernadette, qui doit très certainement aussi compter pour vous dans votre cheminement de foi, votre parcours spirituel. Je vous propose, Jamila Djelloul, de vous retrouver demain dans cette même émission des Clés pour vivre. Nous verrons un peu ce moment de la rencontre qui va venir vous bouleverser entièrement. À demain et merci.
Merci.